êtes toujours à l'écoute de Radio France Internationale, 18h en temps universel, 20h ici à Paris.
RFI Soir. Philippe Le Caplain.
Dans 10 minutes, ce sera Accent du Monde, RFI dans toute sa richesse, sa diversité, avec l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, mais tout de suite un journal. Et c'est avec vous, Adrien Delgange.
Bonsoir Philippe.
Bonsoir à toutes et à tous. Et au sommaire de cette édition internationale, nous sommes au Proche-Orient dès le début de ce journal. La France ne tolérera pas que l'armée israélienne vise à nouveau délibérément des casques bleus. Propos il y a quelques instants prononcés par le chef de l'État Emmanuel Macron. Israël réagit. Nous sommes à Jérusalem. Nous parlerons aussi du prix Nobel de la paix. C'est une organisation de lutte contre l'utilisation des armes nucléaires qui a été choisie cette année. Son nom, Nihon Hidankyo. Quel est l'état de santé de Jimmy Lai, défenseur des droits de l'homme? Il est emprisonné par les autorités hongkongaises depuis 4 ans. Son fils tire la sonnette d'alarme. Et puis enfin en France, un budget à peine dévoilé, une note déjà attendue. L'agence de notation américaine Fitch dévoile son diagnostic sur la France dans la soirée.
La guerre au Proche-Orient, pour la deuxième fois en 48 heures, des casques bleus au Liban ont été visés par des tirs israéliens.
Hier, deux soldats indonésiens de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, sont blessés. Aujourd'hui, ce sont deux autres casques bleus, deux Sri Lankais qui ont été blessés près de la frontière. Tollé international, on ne touche pas aux forces des Nations Unies. De nombreux pays montent au créneau, Italie, Espagne et la France, par la voix d'Emmanuel Macron.
Avec les premiers ministres italiens et espagnols qui représentent comme la France des contributeurs historiques à la FINUL. Je veux dire ici que les 700 soldats français engagés dans cette force sont le signe de notre soutien indéfectible et de notre volonté d'être engagés à la sécurité tout à la fois d'Israël et du Liban. Il est donc tout à fait inacceptable de voir les troupes de la FINUL visées délibérément par les forces armées israéliennes. Nous le condamnons, nous ne le tolérons pas. Et ne tolérons pas que cela se reproduise. Et je remercie les collègues dans Semaine 9 d'avoir eu une parole très claire à nos côtés sur ce sujet.
La réaction du président français en déplacement à Chypre après ces nouveaux tirs israéliens contre des soldats de la FINUL. Paris convoque ce soir l'ambassadeur d'Israël, Nicolas Feldman. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Jérusalem, Nicolas. Et ce soir, Israël répond dans un communiqué.
Oui, sur le réseau social X, l'armée israélienne livre quelques détails sur cette opération. Elle affirme avoir ouvert le feu ce vendredi suite, je cite, à une menace imminente à son encontre, menace qui se situait d'après elle à une cinquantaine de mètres d'un poste d'observation de la FINUL. C'est dans cette frappe, vous le disiez, que ces deux casques bleus Sri Lankais ont été blessés, dont un grièvement. Des blessures involontaires, affirme ce soir l'armée israélienne. Alors c'est la deuxième fois en deux jours que des soldats de la FINUL sont touchés dans des tirs attribués à Israël. Hier, ce sont deux casques bleus, cette fois-ci indonésiens, qui sont tombés d'une tour après des tirs de chars. Depuis le début des incursions terrestres israéliennes au sud Liban il y a 3 semaines, les casques bleus présents sur place pour faire tampon avec Israël sont pris en étau. Des incidents qui suscitent un tollé diplomatique. En plus de Paris, Rome convoque ce soir l'ambassadeur d'Israël et parle de possibles crimes de guerre. La FINUL, de son côté, accuse, elle, les Israéliens de tirs répétés et délibérés, déplore sur place une évolution grave sur le terrain.
Nicolas Feldman en direct de Jérusalem pour RFI.
Et compte tenu de tous ces conflits meurtriers au Proche-Orient, en Ukraine, la question était de savoir s'il fallait décerner cette année un prix Nobel de la paix.
Tant les conflits meurtriers sont nombreux, vous le disiez Philippe. Finalement, l'Institut Nobel en Norvège a récompensé aujourd'hui le groupe japonais Nihon Hidankyo. Cette organisation regroupe des survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, des villes visées par des bombardements atomiques largués par les Américains. C'était en août 1945. La bombe atomique aujourd'hui toujours brandie par notamment la Russie. Alors pour Dan Smith, le directeur du CIPRI, l'Institut de Recherche pour la Paix à Stockholm, l'utilisation de l'arme nucléaire, un sujet toujours d'actualité.
Je suis très content de ce prix et je pense que c'est une très bonne décision. D'abord, parce qu'ils attirent l'attention sur les conséquences destructrices pour l'homme des armes nucléaires, en donnant le Nobel à ce mouvement qui représente les survivants des deux fois dans l'histoire où la bombe nucléaire a été utilisée. Ils attirent aussi l'attention sur l'état très dangereux actuellement des relations internationales. Enfin, ils nous rappellent que l'année prochaine, cela fera 80 ans que les armes nucléaires ont été utilisées pour la dernière fois en temps de guerre, et que nous avons survécu à cela depuis tout ce temps. L'utilisation des armes nucléaires est restée depuis ce jour un tabou, et il faut que cela reste ainsi aussi longtemps que possible.
À noter que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle les dirigeants mondiaux à faire preuve, je cite, de clairvoyance et à éliminer les engins de mort que sont les armes nucléaires après la remise du Nobel de la paix à l'organisation japonaise Nihon Hidankyo.
Un bilan de l'ouragan Milton aux États-Unis.
Nous n'avons pas connu le pire scénario, mais nous avons été touchés, a déclaré Ron DeSantis, le gouverneur de Floride. L'ouragan a causé la mort d'au moins 16 personnes, environ 2,5 millions de foyers restent privés d'électricité. Et puis enfin, une première estimation financière des dégâts, $50 milliards, vient d'annoncer le président américain.
Vous le disiez en titre, Reporters sans frontières s'alarme de l'état de santé de Jimmy Lai.
L'homme d'affaires hongkongais, propriétaire du journal Apple Daily, défenseur du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, est incarcéré depuis 4 ans, derrière les barreaux au titre de la loi sur la sécurité nationale. Il est poursuivi pour avoir publié des articles qui soutenaient des manifestants et critiquaient les dirigeants chinois. Il est détenu à l'isolement. Jimmy Lai a été naturalisé britannique. Son fils, Sébastien, estime qu'il y a urgence à faire libérer son père. RFI Londres, Emeline Vin.
Pour l'ONG de défense des droits humains Amnesty International, Jimmy Lai est un prisonnier d'opinion du régime chinois. Son fils, Sébastien, ne l'a plus vu depuis 4 ans.
Sa santé décline. Il est à l'isolement depuis plus de 1300 jours. Il est âgé. Il va avoir 77 ans bientôt. Il a du diabète. Ce n'est pas de bon augure.
Kylan Gallagher dirige l'équipe juridique internationale de l'homme de presse. Elle considère que le gouvernement britannique n'en fait pas assez pour son ressortissant. C'est bien beau de dire qu'il doit être libéré, mais où est la stratégie ? Nous disons au gouvernement britannique, quel plan ? Comment assurons-nous sa libération avant qu'un Britannique ne meure en prison pour son travail de journaliste ? L'avocate, tout comme Sébastien Lai, ne peut plus se rendre à Hong Kong pour assister au procès. Pour Rebecca Vincent, de Reporters sans frontières, c'est avant la condamnation quasi inévitable qu'il faut agir. La condamnation de Jimmy Lai servira d'étalon pour l'application de la loi sur la sécurité nationale aux journalistes et aux activistes pro-démocratie. Sans oublier que la loi sur la sécurité nationale s'applique partout dans le monde. On ne connaît pas les conséquences.
Sébastien Lai et ses avocates n'excluent pas un nouveau report de l'audience. Emeline Vin, Londres, RFI.
En France, après la présentation du budget 2025 hier, cette autre épreuve du feu pour le gouvernement de Michel Barnier.
Hasard ou calendrier, Philippe, l'agence de notation Fitch s'apprête à livrer son diagnostic à 23h, heure de Paris. La France a actuellement un double A moins une note qui risque de baisser, Gali Bonin.
Fitch a déjà mis en garde la France. Un endettement persistant et important provoquerait une chute de sa note et avec la prévision d'un déficit supérieur à 6% du PIB en 2024, Paris craint le pire. Les agences de notation sont les thermomètres de la confiance dans une économie. Plus la note est basse, moins un pays est susceptible de rembourser sa dette. Résultat, les taux d'intérêt grimpent et l'emprunt coûte de plus en plus cher au gouvernement. Une mauvaise nouvelle pour la France qui veut emprunter 300 milliards d'euros supplémentaires en 2025, alors que le remboursement de la dette est déjà le deuxième poste de dépense, juste derrière l'éducation, avec 61 milliards d'euros. Et même en cas de statu quo, le pays a déjà vécu une forme de déclassement. Ses taux d'intérêt dépassent ceux de l'Espagne et du Portugal, des pays européens historiquement plus dépensiers. L'épreuve ne fait que commencer pour la France. Après Fitch, ce sera au tour des agences Moody's et S&P Global, anciennement Standard & Poor's, de rendre leurs notes dans les prochaines semaines.
Un dernier mot pour vous dire que la stèle 2024 honorant les journalistes tués dans l'exercice de leur métier a été dévoilée aujourd'hui au mémorial des reporters de Bayeux dans l'ouest de la France par Reporters sans frontières.
C'était Adrien Delgrange qui revient à 21h pour d'autres informations. D'ici là, dans 20 minutes, Afrique Soir. Et tout de suite sur RFI, c'est Accent du Monde.